France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, 9e entretien, pratique et théorie, l'objet.
Nous abordons maintenant les textes, les grands textes que nous pouvons appeler ceux de l'objet, c'est-à-dire le soleil, par exemple, l'araignée, et ces textes sont évidemment dans le grand recueil. Je voudrais vous poser deux questions. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par objet? Pourquoi êtes-vous obligé à ce moment-là de forger ce mot? Tout se passe, me semble-t-il, comme si vous entriez dans un mouvement très spécifique qui consisterait à exclure l'objet, et en même temps à vous placer comme scripteur dans ce qu'on pourrait appeler une disparition du sujet. Exclusion de l'objet, disparition du sujet qui écrit, qui est compris dans le texte d'une certaine façon, que vous allez essayer de nous dire. Exclusion de l'objet, disparition du sujet, et nous avons l'objet. C'est-à-dire à la fois un fonctionnement textuel nouveau, entièrement inédit, une vue sur le monde, toujours, c'est-à-dire conçu maintenant de plus en plus comme une horlogerie, comme un appareil, comme un fonctionnement sériel, et en même temps, nous avons, pour ce qui est de l'écriture même, une place par rapport à l'éroticité de l'écriture et par rapport à la mort, qui devient tout à fait explicite et qui vient en premier plan. Il me semble que ces trois choses sont fondamentales pour ce qui est de l'objet. Mais pourquoi objet ?
Objet, eh bien c'est dans un texte intitulé « Le soleil », un long texte, n'est-ce pas, que j'ai, tout à fait au début, défini cette notion de l'objet. Je lis ce début, qui s'intitule « Le nous quant au soleil », le « nous » au lieu du « je » quant au soleil, et l'initiation à l'objet. Nous avons toujours pu penser du soleil avoir quelque chose à dire, et certes ne pouvoir l'écrire sans inventer quelque genre nouveau. Comme nous ne pouvions non plus imaginer a priori ce nouveau genre, dont il eût fallu qu'il se formât au cours de notre travail, nous avons usé à cet égard de beaucoup de ténacité et de patience et mis autant que possible le temps dans notre complot. Je crois que là, je fais une incidente, on voit à la fois venir le temps, comme il était déjà dans la rage de l'expression, et revenir le complot, la bombe. Plusieurs circonstances, pourtant, à ce jeu devaient se produire, qui nous déterminent à montrer notre étude dans l'état où elle paraît aujourd'hui. Chacune, cela va sans dire, chacune de ces circonstances, touche d'assez près au soleil. La première, en effet, tient à notre âge. Je n'étais pas jeune quand j'ai écrit Le Soleil. Et à l'âge de cette étude dans nos dossiers. Nous, ce nous, l'a-t-on compris ? Prononcé sans emphase, et non pas comme Louis XIV, par exemple, figure simplement la collection des phases et positions successives du « je », le pronom personnel. Nous pouvons bien juger maintenant qu'il suffit, que nous avons assez travaillé, que nous avons assez vécu. La seconde circonstance, de la même horloge. Vous voyez là le mouvement cosmique, l'horlogerie universelle, n'est qu'un rouage un peu plus petit, une promesse que nous avions faite. De l'avoir trop longtemps différé nous a fait concevoir une honte capable, en voici la preuve, de balancer de façon décisive celle de donner un texte trop inadéquat à son objet. Là, vous voyez la nécessité de parler, l'éros qui vient, n'est-ce pas ? La troisième, enfin, troisième circonstance, moins claire qu'éblouissante, et donc, de plus près encore que les précédentes tenant à la nature du soleil, nous voici terminant nos excuses au cœur même de notre objet. Qu'est-ce que le soleil, celui-ci, qui domine toute chose et ne saurait donc être dominé, n'est pourtant que la millionième roue du carrosse qui attend devant notre porte chaque nuit. Peut-être le lecteur commence-t-il ici à entendre, dans le roulement et aux lueurs de cette ébène, la nuit, quelle sera la logique de ce texte, sa tournure particulière et son ton. Nous devons pourtant lui en communiquer le vertige encore de plusieurs façons. Chacun, par exemple, sait de la Terre, et de nous par conséquent là-dessus, qu'elle tourne autour du Soleil selon une orbite elliptique, dont il n'occupe qu'un des foyers. Se sera-t-on demandé qui occupe l'autre, l'on ne sera plus très éloigné de nous comprendre. Rappelons d'ailleurs, car cela peut éclairer quelques passages, que les meilleures mesures quant au Soleil sont données à nos astronomes par la petite planète Eros, qui s'approche parfois au plus près de la Terre, jusqu'à 16 millions de kilomètres environ. Si nous ajoutons à ce propos la prière qu'on veuille bien mettre au compte du Soleil, de son éclat excessif et du délire qu'il provoque, nos divagations, nos exaltations et nos chutes, enfin chacune de nos fantastiques ou ridicules erreurs, c'est qu'un faste véritable, de grandes et magnifiques dépenses, ne vont pas en effet sans quelques excès ou bizarreries. Ce que nous devions pourtant essayer de conserver, c'est entre le glorieux et le bizarre une certaine proportion, devant rappeler celle des protubérances ou des taches visibles à la périphérie de l'astre, bizarrerie, par rapport à la sphéricité grandiose et permanente de celui-ci, qui finalement l'emporte de loin sur tout autre caractère. Nous glorifierons-nous donc maintenant de la principale imperfection de ce texte, ou plutôt de sa paradoxale et rédhibitoire perfection. Elle vient à la fois de cette énorme quantité ou confusion de matière, dont aucune d'ailleurs qui n'est son échantillon ici-bas. De leur densité inégale et de leur état de fusion, ou à proprement parler, confusion. Et surtout de cette multiplicité de points de vue, ou si l'on veut, angles de vision, parmi lesquels aucun esprit honnête de notre époque ne saurait en définitive choisir. Il est pourtant un de ces points de vue dans la perspective duquel nous avons entrepris, sinon conduit à leur fin, certains passages, qui constitue vraiment notre propre et où gît peut-être, sinon le modèle, du moins la méthode du nouveau genre dont nous parlions. Qu'on le nomme nominaliste ou cultiste, ou de tout autre nom, peu importe, pour nous, nous l'avons baptisé l'objet. C'est celui où l'objet de notre émotion, placé d'abord en abîme, l'épaisseur vertigineuse et l'absurdité du langage, considérés seuls, sont manipulés de telle façon que, par la multiplication intérieure des rapports, les liaisons formées au niveau des racines et les significations bouclées à double tour, soit créé ce fonctionnement qui seul peut rendre compte de la profondeur substantielle, de la variété et de la rigoureuse harmonie du monde. Que nous n'ayons pu continuellement nous y tenir prouve seulement qu'il est trop tôt, sans doute, encore pour l'objet. Si déjà, comme nous avons eu l'honneur de le dire, sans doute il est trop tard pour nous. Le lecteur, dont nous ne doutons pas, formé sur nos valeurs et qui nous lira dans 100 ans, peut-être, l'aura compris aussitôt. Je crois qu'il se trouve là, enfin, la réponse à plusieurs des questions que vous m'avez posées, n'est-ce pas, disparition de l'objet en abîme, fonctionnement verbal, n'est-ce pas, et tout cela formant l'objet, c'est-à-dire que j'étais obligé, en effet, à ce moment-là, de créer ce mot, cette notion. Il ne s'agit pas du tout seulement d'un jeu de mots, hein. À propos de la disparition de l'auteur, je peux encore citer un texte antérieur, d'ailleurs, qui s'appelle « Le volet ». Ce volet, c'était un volet plein, n'est-ce pas, un volet d'un seul battant qui fermait la fenêtre de la chambre que j'habitais à Coligny pendant notre séjour, pendant la guerre, au moment où je faisais ces voyages de résistance, n'est-ce pas. Alors ce volet m'avait ému, il battait assez fort, Et par ailleurs, c'était un objet qui pouvait être pris en considération. Le texte s'appelle le volet suivi de sa scolie. Là aussi, vous voyez qu'il y aura une sorte de scolie à la fin, n'est-ce pas, de tentative d'explication. Volet plein qui bat le mur, c'est un drôle d'oiseau qu'un volet, qui ne s'envole mis. Et se désarticule-t-il? Non, il s'articule. Écrit par les gonds de son aile unique rectangulaire. Et s'assomme comme un battoir sur le mur. Un drôle d'oiseau cloué, cloué par son profil, ce qui est plus cruel, ou qui sait, car il peut battre de l'aile, et s'assommer à sa guise contre le mur, faisant retentir l'air de ses cris et de ses coups de battoir, vlan deux fois. En effet, il y a deux paragraphes qui disent la même chose. Mais quand il nous a assez fatigués, on le cloue alors, grand ouvert ou tout à fait fermé. Alors s'établit le silence et la bataille est finie. Je ne vois plus rien à en dire. Dieu merci, je ne suis donc pas sourd. Quand j'ai ouvert mon volet ce matin, j'ai bien entendu son grincement, son cri et son coup de battoir. Et j'ai senti son poids. Aujourd'hui, cela a eu plus d'importance que la lumière délivrée, que l'apparition du monde extérieur, de tout le train des objets dans son flot. D'autres jours, cela n'a aucune importance lorsque je suis qu'un homme comme les autres, et que lui alors n'est rigoureusement rien, pas même un volet. Mais voici qu'aujourd'hui, et rendez-vous compte de ce qu'est aujourd'hui dans un texte de Francis Ponge, voici donc qu'aujourd'hui, pour l'éternité, aujourd'hui dans l'éternité, le volet aura grincé, aura crié, pesé, tourné sur ses gonds, avant d'être impatiemment rabattu contre cette page blanche. Il aura suffi d'y penser, ou plutôt encore, de l'écrire. Stabat, un volet. Attaché au mur par chacun de ses deux A, de chaque côté de la fenêtre, à peu près perpendiculaire au mur. Sabat, ou plutôt stabat, un volet. Stabat et ça crie. Stabat et ça a crié. Stabat et ça grince et ça a crié, un volet. Stabat, tout droit, dans la verticale absolue, tendu comme à deux mains placées l'une au-dessus de l'autre, le fusil tenu par deux doigts ici, deux doigts plus haut, tenu tout près du corps, du mur, dans la position du présenté arme en décomposant. Et on peut le gifler, même le plus grand vent, stabat. Les deux T, naturellement, de stabat sont les verticales qui indiquent le fusil tenu dans la position du présenté arme. Non, ce n'est pas le mouvement du pendule, car il y a deux attaches, beaucoup moins libres. Attention, j'atteins ici à quelque chose d'important concernant la liberté. Quelle liberté? Du pendule. Un seul point d'attache supérieur et il est libre de chercher son immobilité, son repos. Mais le volet l'atteint beaucoup plus vite et plus bruyamment. Ce ne doit pas être tout à fait cela, mais je n'ai pas l'intention de m'y fatiguer les méninges. Le volet aussi me sert de nuage. Il suffit à cacher le soleil. Va donc, triste oiseau, crie et parle. Va, mon volet, bas le mur. Oh, mon volet, que fais-tu? Plein fermé, je n'y vois plus goutte. Grand ouvert, je ne te vois plus. Volet plein ne se peut écrire. Volet plein, né, écrit, strié. Sur le lit de son auteur mort, où chacun, veillant à le lire, entre ses lignes, voit le jour. Signé à l'intérieur. Et voici la scolie. Pour que le petit oracle qui termine ce poème perde bientôt et quasi spontanément de son caractère pathétique, il suffirait que dans ses éditions classiques, il soit imprimé comme suit. Volet plein ne se peut écrire, volet plein n'est écrit strié sur le livre de l'auteur mort, où l'enfant qui veille à le lire, entre ses lignes, voit le jour.
Ce qui me frappe dans le rapport entre le volet et le soleil, c'est ce rapport justement entre la disparition et l'apparition du texte, entre la mort du scripteur et l'appel, la convocation du lecteur, entre le fonctionnement du monde donné comme étant enfin libéré de quelque chose qu'il aurait réprimé et le fonctionnement du texte. Je voudrais que vous insistiez sur ce rapport.
Peut-être me suffira-t-il pour cela d'en venir au soleil, à la fin du soleil, justement, et de vous lire le texte intitulé « Le soleil se levant sur la littérature ». Ici, je demande au lecteur d'imaginer, ou plutôt à l'auditeur, d'imaginer qu'il lit le texte sur un livre, sur une grande page de livre. Que le soleil, à l'horizon du texte, se montre enfin, comme on le voit ici, pour la première fois en littérature, sous les espèces de son nom incorporé dans la première ligne, de façon qu'il semble s'élever peu à peu, quoiqu'à l'intérieur toujours de la justification, pour paraître briller bientôt en haut et à gauche de la page dont il fait l'objet. Voilà qui est normal, étant donné le mode d'écriture adopté dans nos régions. Il s'agit de l'écriture de gauche à droite. Et comme aussi du point de vue où, puisqu'il m'en croit, se subrogeant continuellement à moi-même, se trouve actuellement situé le lecteur. Je réponds là, il me semble, à votre question. Le lecteur se subrogeant à chaque instant au scripteur. En effet, lorsque je commence à écrire devant une fenêtre regardant au midi, c'est que le soleil, ayant franchi les monts sénestres de la nuit et traversé la couche informe des vapeurs oniriques qui les surplombent, se trouve assez haut déjà dans le ciel pour que sa lumière ait acquis une certaine force. Il frappe alors comme une cible ma tempe gauche et commande ainsi, la structure de l'homme étant en hélice, les articulations de ma main droite, laquelle trace les présents signes noirs, qui ne sont donc peut-être, n'est-ce pas bien ainsi, que la formulation plus ou moins précise de mon ombre portée intellectuelle. Que dis-je ? Seulement l'ombre, n'est-ce pas mieux encore, de mon bec de plume lui-même. Oui, c'est ainsi que Horus s'élève dans le ciel comme l'épervier victorieux aussitôt de toutes les autres étoiles. Pourtant, sa force en peu d'instants croît encore, éblouissant ma raison, qui ne peut plus le défilir dès lors que comme cette source intense de lumières et d'idées qui fonctionne le matin dans le lobe antérieur gauche de ma tête. Et maintenant, c'est le délire autour de midi. Ô soleil, monstrueux ami, putain rousse, tenant ta tête horripilante dans mon bras gauche, c'est allongé contre toi tout au long de la longue cuisse de cet après-midi que, dans les convulsions du crépuscule, parmi les draps sens dessus-dessous de la réciprocité, trouvant enfin dès longtemps ouvertes les portes humides de ton centre, j'y enfoncerai mon porte-plume et t'inonderai de mon encre opaline par le côté droit. Le soleil était entré dans le miroir, la vérité ne s'y vit plus. Aussitôt éblouie et bientôt cuite, coagulée comme un œuf. Fin du texte. De ce soleil, je n'ai lu que le début pour la définition de l'objet et la fin. Mais c'est un long texte qui comporte des chapitres intitulés par exemple, le soleil toupie à fouetter. Et j'y reprends là, sans aucune suppression, un très grand nombre de notes, parmi lesquelles certaines très anciennes, datant de ma première jeunesse. Car le thème du jour et de la nuit, le thème du soleil est présent constamment dans mon œuvre dès le début. Parce qu'évidemment, c'est un des thèmes les plus importants de quelqu'un qui a pu se concevoir un instant comme un élève des cosmogonistes. Ce que je pense avoir, je ne dis pas réussi, mais tenté dans le soleil, c'est après l'arrache de l'expression, donc le journal poétique, et sans supprimer rien, n'est-ce pas, comme je le faisais dans le journal poétique, où je donnais absolument toutes mes notes les unes après les autres, c'est d'avoir peut-être réussi à faire tourner cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire avoir réussi à retrouver la forme bombe, un mécanisme d'horlogerie, qui était au centre de ma préoccupation au moment où j'écrivais les textes clos du Parti pris des choses, mais en amplifiant, en agrandissant tout cela et en ne rien lâchant de tout ce que j'avais pu écrire, de tout ce que mon imprégnation longue et ancienne m'avait permis d'écrire sur le sujet.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. C'était aujourd'hui le 9e entretien, pratique et théorie, l'objet. Assistant Jacques Devin. Lundi 8 mai à 22h40, 10e entretien. Pour un Malherbe, pour une nouvelle culture.